le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Bonjour tout le monde. Dans ce billet, et par la lecture de deux articles, nous abordons le très vaste chapitre de la corruption. Ces deux articles illustrent des cas de corruption dans le cadre politique, mais l'introduction, quant à elle, entend élargir la réflexion. Car il faut bien admettre que la corruption, loin de rester circonscrite à cette sphère, s'est étendue dans nombre de pratiques courantes et sous diverses espèces, allant des petites tricheries quotidiennes aux incitations offertes par la législation. Législation qui permet de s'écarter le plus légalement du monde de la loi, justement. Aussi, digressions et propos peu en lien ne s'interdiront pas d'intervenir dans cette introduction. La corruption est un fléau, certes. Et l'état actuel de délabrement moral de notre société en est une illustration. Et pour aboutir, celle-ci a besoin d'auxiliaires, au rang desquels la peur, la lâcheté, l'hypocrisie et, bien évidemment, un égoïsme totalement décomplexé. Et qui sera le moteur activant toute cette belle machinerie qu'est le calcul de l'intérêt personnel. Car la corruption commence là, n'en doutons pas. Et à commencer par les tricheurs, du plus petit au plus grand, qui trichent parce qu'ils savent tricher, au détriment de ceux qui ne savent pas ou s'y refusent, et on a là un beau point de départ de les inégalités sociales qu'on fait mine de déplorer. Le phénomène s'étendant ensuite en lettres de noblesse de l'intelligence dite émancipée, ce phénomène de tricherie ne peut que s'élargir à nombre d'adeptes en quête de reconnaissance sociale. Mais d'où nous vient cet étrange besoin d'une reconnaissance sociale de notre intelligence, au reste fort discutable dans la circonstance, quand ce besoin nous oblige souvent à renoncer à notre intelligence élémentaire et qui, souvent, nous met en garde contre les périls des manœuvres du mensonge et de la tricherie. J'avancerai pour ma part deux hypothèses à cela. La première pourrait tenir dans un complexe d'infériorité compensé par une nécessité de briller à n'importe quelle condition. Une seconde peut être avancée en la matière de la compétition qui stimule toujours plus avant ce besoin d'intelligence brillante. Intelligence qui, dès lors circonscrite à ce seul intérêt, ne peut manquer de s'atrophier dans tous les autres domaines où peut s'exercer une forme d'intelligence. Il s'agirait, en résumé, d'une sorte de canalisation de l'intelligence dans le seul fait de savoir manipuler, donc mentir et tricher, à seule fin d'en extraire des privilèges sociaux, de quelque nature qu'ils soient. Mais surtout, faire figure d'intelligence subtile, capable d'en abuser d'autres au maximum. Ces mécanismes-là ne sont pas seulement courants dans notre structure sociale, ils sont encouragés, et à leur tour par des mécanismes sournois et hypocrites. Et comme il a été dit précédemment, y compris par la loi qui voit dans ses contournements, des preuves d'une intelligence capable d'étendre ces mêmes critères d'intelligence à la bêtise d'y participer. Car ne nous y trompons pas, malin trouve toujours plus malin que lui-même. Et c'est en cette définition qu'il faut tenir cette forme limitée de notre intelligence. Et si nous l'examinons d'un peu plus près, nous nous apercevrons que l'exercice de cette intelligence, que l'on limite à dessein, demande, à l'inverse de ce qui s'éclaironne souvent, beaucoup moins de courage que de lâcheté. Un petit exemple peut en être fourni dans le cadre des pratiques utilisées face à l'impôt. Le citoyen qui, réfutant le caractère justifié de sa taxation, que va-t-il faire ? Refuser de payer ses impôts ou bien plutôt recourir au dispositif d'exonération fiscale. Mais ce dispositif demande l'intelligence et la connaissance de l'utilisation de tels mécanismes. Par contre, cela ne demande aucun courage, puisqu'aussi bien il s'agit de se dérober plutôt que d'affronter. Et pourtant, un tel affrontement pourrait être justifié. Affrontement dont ne se privent pas d'ailleurs certains puissants qui savent pouvoir gagner, même lorsque c'est injustifié. Cet affrontement pourrait pourtant amener à des questionnements soumis aux responsables concernant l'usage qu'ils font de l'argent public. Mais, plus simplement, la dérobade évite l'affrontement. Bon, pour résumer, ce que je veux dire en ces propos, c'est que notre structure sociale elle-même, par les multiples aménagements d'arrangements avec notre conscience qu'elle permet, voire encourage, prédispose inconsidérément à se satisfaire d'une honnêteté moyenne dans une société devant elle-même et de fait une société d'honnêteté moyenne. Les travers qui hantent nos comportements, aux coulisses de nos identités affichées, l'envie, la jalousie, la vanité, combinés aux autres précédemment cités, jalonnent le quotidien de l'existence humaine et, quant au pire, ils ne corrompent pas carrément un sentiment louable à son origine, la jalousie en amour par exemple. Ceci constitue un véritable parcours du combattant pour parvenir à s'améliorer. Et quand, dès lors, une norme sociale dite émancipée vient, de plus, encourager tous ces travers au motif qu'ils constituent des moteurs d'ambition, comment s'étonner alors qu'aux étages les plus ambitieux de notre société pullulent mensonges, calomnies et corruption? Car c'est là que mon propos rejoint ceux des articles qui vont suivre. Et il s'agit du ferment mental dans lequel baigne le personnel politique. Leur travail consiste justement en un usage permanent de ces comportements délétères pour parvenir à leur fin, et à des niveaux d'enjeu sans commune mesure avec les nôtres. On pourrait dire, imageant le phénomène, que l'esprit de ces personnes fermente en permanence dans un bain de corruption et dans une activité faite de calcul, de manipulation et d'altération de toute vérité inopportune à dire. Et lorsque l'on constate ce qu'une désinhibition feutrée de l'honnêteté génère dans nos populations, comment s'étonner dès lors que, totalement décomplexée, elle puisse amener à ces sommets de corruption? Pour conclure, sans doute le terme de corruption utilisé dans ce texte a été parfois abusif. On pourra y voir les emportements d'un jugement hâtif dans son analyse, cela est sans doute vrai. Ce qui n'est pas moins vrai cependant, est que toutes ces petites déviances, quotidiennement et universellement pratiquées, sont une caisse de résonance amenant à une amplification renouvelée pouvant amener à la corruption. Et qui, comme on le voit, au sommet de nos constructions politiques, amènent effectivement à la corruption. Aussi, si vraiment nous voulons lutter contre la corruption, ne serait-il pas temps de commencer cette lutte vraiment? D'abandonner le principe du « tout le monde le fait » pour justifier nos renoncements? Car une chose est sûre, cependant, et c'est que faute de corruptibles, les corrupteurs se trouveraient subitement sans raison d'être. Renvoyés aux poubelles du néant et loin de toute gloire, se verraient ramenés à ce qu'ils sont vraiment, les victimes d'un système, pathétiques marionnettes soumises à ce même système qu'ils pensent avoir créé, mais dans lesquels ils se retrouvent autant manipulés que manipulateurs. Un jeu à somme nulle, finalement. Parvenu ainsi au terme de ce soliloque apparemment décentré, il est temps maintenant de vous présenter la lecture du premier des deux articles de ce billet. Intitulé « Sermonner le monde ou le changer », écrit par Benoît Bréville et Renaud Lambert, il a été publié dans Le Monde diplomatique de septembre 2019. Ce texte aborde la question de la mission que tend à se fixer la gauche parlementaire actuelle en rapport avec l'objectif initial que la gauche était censée se fixer. Il est lu par Caroline de Cibourg.
En 2017, en France, M. François Fillon, candidat des Républicains, voit s'évanouir ses chances d'accéder à l'Élysée lorsqu'une enquête est ouverte contre son épouse, accusée d'avoir bénéficié d'emplois fictifs. En 2018, la justice brésilienne soupçonne l'ancien chef de l'État, Luiz Lula da Silva, d'avoir touché des pots de vin et lui interdit de se présenter à l'élection présidentielle. En 2019, l'ancien président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy, démissionne de son poste de ministre de l'écologie quand la presse révèle qu'il a servi homard et grand cru à des proches aux frais de l'État. De Paris à Brasilia, de Londres à Séoul, la vie politique semble rythmée par les affaires. Le fléau, que le pape François a récemment qualifié de cancer, des sociétés modernes, préoccupe tant que chaque 9 décembre, sous l'impulsion des Nations Unies, la planète célèbre la Journée internationale de lutte contre la corruption. 2 jours après celle de l'aviation civile et 2 jours avant celle de la montagne. Si la condamnation du phénomène fait l'unanimité, le terme frappe par sa nébulosité. La chercheuse Anastasia Zagainova souligne qu'il désigne à la fois des infractions pénales définissant un comportement précis et sa sanction, corruption active et passive, ingérence, concussion, atteinte à l'égalité des chances dans les marchés publics, et des comportements socialement discutables mais dont le mode de sanction reste imprécis. Lobbying, évasion fiscale, création de sociétés écrans offshore, cas de pantouflage, etc. Aux États-Unis, par exemple, une entreprise qui souhaite influer sur les choix d'un élu n'a pas besoin de recourir au dessous de table. Depuis janvier 2010, est l'arrêt Citizen United Federal Election Commission, rendu par la Cour suprême, il lui suffit de subventionner des associations liées à son poulain, le plus légalement du monde, et sans plafonnement des montants. Dans bien des pays, une telle pratique est prohibée. Outre-Atlantique, on parle de liberté d'expression. Selon un rapport de la Sunlight Foundation entre 2007 et 2012, les 200 entreprises américaines les plus actives politiquement ont, au niveau fédéral, dépensé 5,8 milliards de dollars en frais de ce type. Durant la même période, elles ont reçu l'équivalent de 4 400 milliards de dollars en cadeaux divers, subventions, exonérations, réductions d'impôts. Amender la loi plutôt que ses comportements, la méthode séduit. Les multinationales américaines souhaitant s'implanter dans des pays pauvres sont ainsi autorisées à effectuer des paiements de facilitation, facilitating payments, pour accélérer une procédure, obtenir une autorisation, faire passer un dossier sur le dessus de la pile. De leur côté, les justiciables suffisamment fortunés peuvent mettre un terme aux poursuites dont ils font l'objet en versant de l'argent à la partie adverse. Fluctuante, la frontière entre corruption et pratique légale apparaît dès lors soumise aux aléas du droit et de la logique qui en sous-tend souvent l'élaboration. Faire entrer les pratiques des dominants dans la légalité tout en garantissant la plus grande sévérité pour les forfaits des classes populaires. Variable selon les points du globe et les hiérarchies sociales, l'attention portée au phénomène change également à travers le temps. Entre 1981 et 1990, Le Figaro, Le Monde et Libération ont publié 2630 articles traitant d'une façon ou d'une autre de corruption. Une décennie plus tard, le chiffre avait quadruplé. Une épidémie de prévarication s'était-elle abattue sur le monde? Dans une étude publiée en 2004, les chercheurs Catherine Fichy et Paul Highwood avancent une autre explication. La mutation du débat politique consécutive à l'effondrement du système communiste au début des années 1990. Les partis, dont les batailles électorales s'organisaient hier autour d'enjeux idéologiques, mais qui avaient les mêmes pratiques en matière de corruption, ont dû changer de tactique. Les programmes de la gauche et de la droite ont commencé à se ressembler, tandis que l'urgence de faire la démonstration de sa compétence une fois au pouvoir devenait déterminante. La concurrence politique a donc conduit à délaisser les débats de fond pour leur préférer les accusations de corruption destinées à entacher le crédit de l'adversaire. Cette évolution a été une aubaine pour les grands médias. Contestés pour leur disposition à endosser les préférences des élites, ils trouvent dans les affaires le moyen de redorer leur blason. Puisqu'ils révèlent les turpitudes des puissants, c'est qu'ils sont libres. Mais la mise en avant du thème de la corruption dans les années 90 procède également d'un mouvement idéologique plus profond. Le modèle politique alternatif représenté par le bloc de l'Est ayant disparu, sa contrepartie occidentale devient, selon ses promoteurs, la seule possible, l'incarnation de la raison. Dans les couloirs du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, émerge alors le thème de la gouvernance. L'idée d'un gouvernement technique, dirigé par des experts, œuvrant pour le bien commun. Ainsi, pour les pays du Sud comme pour ceux de l'ancien bloc communiste, se convertir au libre-échange ou au capitalisme ne procède plus d'un choix politique, mais d'un impératif de bonne gestion. Nuisible aux entreprises qui souhaitent s'implanter dans les pays en développement, la corruption concentre le feu des institutions néolibérales qui en identifient très vite la racine principale, un manque de libre-échange. En gonflant le prix des biens au-dessus de celui du marché, explique le chercheur Strom C. Tucker, les entraves au commerce peuvent conduire les dirigeants d'entreprises à payer des pots de vin pour obtenir une exemption ou un traitement préférentiel. Libéraliser et lutter contre la prévarication, les organisations internationales conditionneront bientôt leur aide financière à ces deux impératifs. Omniprésente dès qu'il s'agit de mesurer le phénomène de corruption, l'organisation non gouvernementale Transparency International, fondée 2 ans après l'effondrement de l'Union soviétique par un ancien membre de la Banque mondiale, considère que les malversations ne concernent que le secteur public. Par définition, les entreprises en seraient protégées. On rétorquera que le Mexique des années 80 et la Russie de la décennie suivante ont offert la démonstration que le règne du marché et les privatisations qu'il exige n'ignorent rien des connivences, des dessous de table et de la corruption. Mais peu importe à ceux qui, avec Francis Fukuyama, estiment que l'effondrement du bloc soviétique a sonné la fin de l'histoire. Dans le récit qu'il façonne, les boussoles ne sont plus politiques, mais morales. Certes, les élites conservent leurs préférences idéologiques, mais elles le formulent en puisant dans le registre de la vertu. On parlait hier de capitalisme, il sera désormais question de liberté économique. On intervenait à la Grenade pour lutter contre la menace communiste, on enverra ses troupes à la rescousse des droits humains. Ainsi, au Brésil, la gauche n'apparaît plus comme un adversaire électoral, mais comme un ennemi dont les options politiques menacent la probité générale. 2 universitaires ont calculé que 95% des articles traitant de la corruption à la veille des élections présidentielles de 2010 et de 2014 concernaient le Parti des travailleurs et 5% le Parti de la social-démocratie brésilienne, une formation conservatrice pourtant identifiée comme la plus sale du pays par les institutions électorales de l'époque. Une telle couverture conduit peu à peu à ne plus associer les malversations à des personnalités politiques, mais au courant qu'elles incarnent. Elle invite à amalgamer les sommes subtilisées par des dirigeants malhonnêtes et celles consacrées à l'élévation du niveau de vie des plus pauvres accusés d'indolence. Ne s'agit-il pas, dans un cas comme dans l'autre, d'une ponction indue et donc immorale sur la richesse nationale? Le nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, peut alors promettre de lutter contre la corruption en purgeant le Brésil des vices moraux et idéologiques qu'il associe au Parti des travailleurs. La multiplication des scandales semble être parvenue à convaincre une partie de la gauche que le monde ne fonctionnerait finalement pas si mal si l'on parvenait à éradiquer la fraude, la triche et la corruption. Troquant leurs objectifs politiques pour d'autres moraux, ces militants se métamorphosent. Hier, ils luttaient. Désormais, ils s'indignent. Ils fondaient des organisations pour prendre le pouvoir. Les voici qui signent des pétitions enjoignant au monde de se montrer plus doux, plus tolérant, moins raciste, plus vert, plus paritaire. Monsieur de Rugy ne les préoccupe pas parce qu'il a été ministre de l'Environnement d'un gouvernement qui aggrave la crise climatique en promouvant le libre-échange, mais parce qu'il se serait doté d'un sèche-cheveux trop coûteux. Et comme la morale impose que l'on s'applique à soi-même ce que l'on attend des autres, le plus important n'est plus de parvenir à ses fins, mais de se montrer droit, juste, équitable et gentil. Avec certaines conséquences sur l'organisation des combats politiques, comme l'illustre une séance de formation dispensée par la Confédération générale du travail, CGT, à des représentants du personnel élus au sein de ses rangs en 2014. Une jeune femme, adhérente de fraîche date et salariée dans un grand hôtel, fut invitée à prendre la parole pour expliquer sa conception de la lutte syndicale. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas choisir son camp de façon systématique, de m'en montrer impartial. Ne dis pas n'importe quoi, lui répondit le formateur de la CGT. Tu crois que, en cas de conflit, ta directrice de ressources humaines se demandera ce qui est juste et impartial? La politique, c'est un camp contre un autre. Le tien, en tant que syndicaliste, c'est le camp des salariés. Les sans-culottes, les communards ou les manifestants de 1936 ne luttaient pas contre la corruption, mais contre le pouvoir de l'argent. Ils n'étaient pas mus par la volonté de se montrer exemplaires, mais par leur détermination à obtenir gain de cause. La gauche n'est pas née pour sermonner le monde, mais pour le changer.
Le deuxième article de ce billet, intitulé « Au Brésil, les arcanes d'un coup d'État judiciaire », prend appui sur les mécanismes de corruption judiciaire qui ont été utilisés lors de l'affaire mettant aux prises Dilma Rousseff avec les institutions pénales et politiques du pays. Écrit par Perry Anderson et publié dans Le Monde diplomatique de septembre 2019, ce texte est également lu par Caroline de Cibourg.
La destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff en 2016, le procès à grand spectacle et l'incarcération en 2018 du favori de l'élection présidentielle, M. Ignacio Lula da Silva, se fondaient sur un même motif, la lutte contre la corruption. Nombre d'observateurs ont approuvé ce coup de balai donné au nom de la justice républicaine. Avant de s'apercevoir qu'il s'agissait d'un coup d'État judiciaire qui a fini par profiter à l'extrême droite. L'opération Lava Jato, lavage à haute pression, liée au plus important scandale de corruption de l'histoire récente brésilienne, éclate en mars 2014. Elle tombe sous la responsabilité du juge Sergio Moro, qui s'était fait les griffes en 2005 en tant qu'assistant dans une autre affaire très médiatisée, le scandale du Mensalão qui concernait le versement par le Parti des Travailleurs, PT, de pots de vin mensuels à des députés pour leur soutien. M. Moro a décrit sa façon de procéder dans un article publié au milieu des années 2000. Elle consiste à imiter les procédures mises au point lors de l'opération Manipulite, main propre, qui, au début des années 90, avait mis à terre les partis de gouvernement italiens, précipitant la fin de la Première République. Dans son texte, M. Moro souligne l'importance de deux aspects de cette méthode, le recours à des peines d'emprisonnement préventif, de façon à inciter la délation, et les fuites dans la presse, calibrées pour susciter l'ire de l'opinion publique et mettre sous pression suspects et institutions. À ses yeux, la mise en scène médiatique importe davantage que la présomption d'innocence. Au cours de l'affaire Lava Jato, le juge brésilien dévoile des talents cachés d'impresario. Raid, arrestation à grand spectacle, confession, des coups de fil à la presse et aux chaînes de télévision garantissent à chaque étape une large couverture aux opérations qu'il orchestre. Plus dramatiques les unes que les autres, celles-ci sont numérotées et dotées d'un nom de code emprunté à l'imaginaire cinématographique classique ou biblique. Dolce Vita, Casablanca, Aletheia, vérité en grec ancien, Jugement dernier, Omerta, Abyss, etc. Les Italiens se targuent d'avoir un sens inné du spectacle. Monsieur Moreau les fait passer pour des amateurs. Pendant un an, les poursuites ciblent d'anciens dirigeants de la Société pétrolière nationale Petrobras, accusés d'avoir été stipendiés avant de provoquer la chute du premier cadre important du Parti du Travail, son trésorier M. João Vaccari Neto, et des responsables des deux plus grandes sociétés du bâtiment et des travaux publics du pays, Odebrecht et Andrade Gutiérrez. Les manifestations de soutien à M. Moreau montent en puissance. Exigeant le châtiment du Parti des travailleurs et le départ de la présidente Dilma Rousseff, elle place le Congrès sous pression. Il n'en faut pas davantage au président de l'Assemblée nationale, M. Eduardo Cunha, pour mettre à l'ordre du jour la destitution de la présidente. Les juges, des justiciers ou des opérateurs politiques prêts à tout. Isolée et affaiblie, Madame Rousseff appelle à la rescousse l'ancien président Ignacio Lula da Silva. Celui-ci déploie son savoir-faire de négociateur pour réparer les relations avec l'ancien allié, le parti du mouvement démocratique brésilien PMDB. Monsieur Cunha, dont il apparaît qu'il a placé plusieurs millions de dollars sur des comptes secrets en Suisse, propose un pacte de protection mutuelle. Il interrompra ses démarches contre Madame Rousseff si le gouvernement lui rend la faveur. Lula enjoint à la présidente d'accepter la main tendue. Elle refuse, soutenue par la direction nationale du Parti des travailleurs, qui craint que l'entente soit découverte. Les députés du Parti des travailleurs soutiennent les poursuites contre M. Cunha, qui riposte en lançant la procédure de destitution. De son côté, M. Moreau prépare le coup de grâce. Au début du mois de mars 2016, il déclenche l'opération Aletheia. Lula est interpellé aux petites heures du jour devant l'objectif des caméras, les médias ayant été avertis. L'ancien président est soupçonné d'avoir bénéficié des largesses d'Odebrecht. D'autres rebondissements suivent. M. Moreau intercepte et divulgue à la presse une conversation téléphonique entre Mme Rousseff et Lula, qu'il a mis sur écoute. Les deux dirigeants y évoquent la possibilité pour le second de devenir chef de cabinet, l'équivalent brésilien du poste de Premier ministre. Comme les fonctionnaires de rang ministériel et les membres du Congrès jouissent d'une immunité que seule la Cour suprême peut lever, nul ne doute qu'il s'agit d'une ruse pour empêcher son arrestation. Deux juges de Brasilia s'opposent à la nomination. Le premier, un habitué des vitupérations contre le Parti des travailleurs sur Facebook, le second, un obligé du Parti de la social-démocratie brésilienne, hostile au pouvoir. La pression de la rue en faveur de la destitution de la présidente atteint son paroxysme. À l'Assemblée, rien n'indique cependant que la majorité des deux tiers soit acquise. De nouveaux raids mettent au jour des carnets d'Odebrecht qui détaillent les sommes versées à environ 200 personnalités issues de la quasi-totalité des partis. Dans la classe politique, tous les signaux sont au rouge. Un opérateur de premier rang au sein du PMDB, est enregistré à son insu, disant à un collègue qu'il « faut mettre un terme à l'hémorragie ». Or, les types de la Cour suprême lui ont dit que cela s'avérait impossible tant que Madame Rousseff était au pouvoir, puisque les médias se déchaînent contre elle. pas d'autre option, explique-t-il, que de la remplacer au plus vite par le vice-président, M. Michel Temer, et de former un gouvernement d'union nationale soutenu par la Cour et par l'armée. En moins de 2 semaines, l'Assemblée approuve la destitution de la présidente, laissant le champ libre à M. Moro pour se débarrasser de M. Cunha, devenu inutile. Bientôt exclu de l'Assemblée, celui-ci finit en prison. Le Sénat valide la destitution de la présidente et M. Temer prend la tête du pays. En 2017, Lula est accusé d'avoir accepté un appartement de bord de mer dont il n'a pourtant jamais été le propriétaire légal. Jugé à Curitiba en juillet, il est condamné à 9 ans d'emprisonnement. À la suite d'une procédure en appel, la peine est portée à 12 ans. Le premier président issu du Parti des travailleurs derrière les barreaux, la seconde destituée sous les quolibets, le naufrage du parti semble total. 2 analyses du rôle des juges émergent alors. La première les décrit comme des justiciers déterminés à terrasser la corruption, la deuxième comme des opérateurs politiques prêts à tout pour parvenir à leur fin. Dans son ouvrage « O Lulismo em Crise », le sociologue brésilien André Singer les rejette toutes 2. Selon lui, les juges se sont montrés à la fois parfaitement républicains et indéniablement factieux. Républicains, comment décrire autrement l'emprisonnement des chefs d'entreprise les plus riches et puissants du pays? Factieux, quel autre sens donner au harcèlement systématique des membres du Parti des travailleurs alors que ceux des autres partis étaient épargnés, à part M. Cunha devenu trop encombrant? Sans parler des affinités politiques de juges, des anathèmes qu'ils ont lancés sur Facebook ou des photographies où on les voit poser, tout sourire, arborant les emblèmes des partis conservateurs. Une question demeure. Républicains et factieux, ces juges l'étaient-ils en proportion équivalente? Peine réduite pour le patron d'Odebrecht grâce à la délation récompensée. Dans le système judiciaire brésilien, policiers, procureurs et juges forment des corps indépendants les uns des autres. La police rassemble les preuves, les procureurs prononcent les réquisitoires et les juges décident des peines. Au Brésil, les jurés n'interviennent que pour les homicides. En pratique, toutefois, les 3 fonctions ont fusionné à l'occasion de l'opération Lava Jato. La police et les procureurs, travaillant sous la supervision du juge qui contrôlait les enquêtes, déterminaient les peines à requérir et les prononçaient. Une indéniable négation des mécanismes de base de la justice qui prévoit la séparation de l'accusation et de la condamnation, sans même évoquer le fait que le juge Moro balaye d'un revers de main le principe de la présomption d'innocence. Autre coquetterie du système judiciaire brésilien. La délation récompensée permet de menacer une personne de peine d'emprisonnement écrasante à moins qu'elle ne contribue à impliquer un autre justiciable, l'équivalent judiciaire du chantage. On mesure les dérives auxquelles contribue un tel dispositif à travers le cas de M. Marcelo Odebrecht, le plus riche patron interpellé dans le cadre de l'enquête. Condamné à 19 ans de prison pour corruption, il a vu sa peine réduite à 10 ans dès lors qu'il s'est plié au petit jeu de la délation et est sorti au bout de 2 ans et demi. Dans un tel contexte, on peinerait à surestimer la pression subie pour fournir aux magistrats les éléments susceptibles de faire avancer les enquêtes qui les préoccupent le plus. Mais tout ce qui précède pèse finalement peu au regard de l'introduction du concept de dominio do fato, la possibilité de condamner quelqu'un en l'absence de preuves directes de sa participation à un crime, selon l'idée qu'il ne peut pas ne pas en être responsable. Ce mécanisme dérive de celui du Tatterschaft, maîtrise de l'acte, imaginé par le juriste allemand Klaus Roxin pour condamner des criminels de guerre nazis. Mais Roxin a dénoncé l'utilisation brésilienne du principe. Figurer à telle ou telle place dans un organigramme ne suffit pas, dit-il, à établir la responsabilité d'un crime. Il faut de surcroît que la justice puisse prouver que ledit crime a bien été commandité par l'accusé. Et le juge Moreau ne s'est pas encombré de telles finesses. Pour avoir prétendument reçu un appartement d'une valeur de 600 000 dollars, Lula a écopé de 12 ans de prison, deux tiers de la peine de prison initiale de M. Odebrecht pour moins de 2% des sommes que ce dernier est accusé d'avoir détournées. Célébré par la presse, Sergio Moro n'a subi aucune sanction. Ainsi, l'action de la cour de Curitiba correspond-elle néanmoins peu ou prou au cocktail identifié par Singer, une dose de zèle républicain, une autre de stratégie factieuse. Lorsqu'on remonte dans la hiérarchie judiciaire jusqu'à la Cour suprême, les choses changent. Ici, ni rigueur éthique, ni ferveur idéologique. Les motivations s'avèrent bien plus sordides. Contrairement à ses équivalents ailleurs dans le monde, la Cour suprême brésilienne combine trois fonctions. Elle interprète la Constitution, elle joue le rôle de cour d'appel de dernier recours pour les procès civils et criminels, et enfin, elle concentre la faculté de poursuivre les dirigeants politiques, membres du Congrès et ministres, qui jouissent sans cela d'une immunité connue sous le nom de « foro privilegiado ». Les 11 membres de la Cour sont nommés par l'exécutif. À l'opposé de ce qui se passe aux États-Unis, leur confirmation par le pouvoir législatif n'est qu'une formalité. Aucune expérience préalable des cours de justice n'est requise. Avoir pratiqué en tant qu'avocat ou procureur suffit. De tout temps, la nomination des membres de la Cour a davantage reposé sur des logiques de réseau que sur des affinités idéologiques. Dans l'équipe actuelle, l'un des membres a été l'avocat de Lula, un deuxième est un obligé de l'ancien président Fernando Henrique Cardoso et un troisième un cousin d'un autre président, M. Fernando Collor de Mello. Lorsque la pression du public exigeant la destitution de Mme Rousseff était au plus haut, 8 des 11 membres de la Cour avaient été choisis par la présidente et par son prédécesseur. Mais les juges affichant la couleur politique du caméléon, ceux qui devaient leur appointement au Parti des travailleurs, cherchèrent précisément à marquer leur indépendance vis-à-vis du parti au pouvoir. Ils se contentaient, dans les faits, de substituer une forme d'allégeance à une autre. Oubliés les caciques du Parti des travailleurs, ils obéissaient désormais aux médias dominants. Dès le début de l'opération, l'équipe de Curitiba utilisa les fuites et les révélations à la presse pour court-circuiter les procédures normales. Précipiter la stigmatisation publique d'un accusé avant sa comparution est normalement interdit, mais M. Moro s'en priva d'autant moins qu'il pouvait compter sur les journalistes pour mettre la Cour suprême sous pression. Lorsqu'un des juges de l'institution l'informa que le principe de l'habeas corpus exigeait qu'il libère un dirigeant de Petrobras, M. Moro se tourna vers la presse, déclarant que dans ce cas, il lui faudrait également libérer des trafiquants de drogue. Son supérieur opéra une volte-face. Après avoir enfreint trois normes encadrant les écoutes téléphoniques et rendu publique la conversation entre Lula et Mme Rousseff, le juge Moro se justifia en expliquant qu'il avait agi dans l'intérêt général. Célébré comme un héros national dans la presse, il ne subit aucune sanction. Quelques jours après son élection à la présidence du pays en octobre 2018, M. Jair Bolsonaro a annoncé que M. Moro avait accepté le poste de ministre de la Justice. Dans les années 90, les magistrats italiens chargés de l'opération Mani Pulite avaient regretté que leurs efforts pour lutter contre la corruption aient en définitive favorisé l'accession au pouvoir de M. Silvio Berlusconi. Au Brésil, la star de Lava Jato s'est réjouie de rejoindre l'équipe d'un des rares dirigeants politiques susceptibles de faire passer M. Berlusconi pour un personnage sympathique.
À la conception de l'émission, à la réalisation et à la mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable, Patrick Rion. En partenariat avec Radio Django, qui permet la diffusion des émissions de Le Monde est beau.